3, 2, 1. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de la saison 3 de Dans le Mille. Comment ça va, Renaud?
Ça va bien, ça va bien. Écoute, on essaie un format un peu plus différent. Il va falloir que les fans s'adaptent pour nos quelques prochains épisodes, donc pour les prochains 3 ou 4 à peu près. Ça va être ce format-là, à distance. Écoutez, ce soir, on a un épisode chargé. On fait un peu le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine en termes de performance de joueurs. On vous parle de pool, comme vous avez vu dans le titre. Puis moi, avant qu'on commence l'épisode, avant qu'on rentre dans le pool, je veux savoir ceux qui regardent, selon vous, c'est quoi le meilleur gardien de but à prendre dans votre pool de hockey cette année? Est-ce que c'est encore Vasilevski? Est-ce que c'est un nouveau? Est-ce qu'on essaye Swayman? Whatever, je veux vous entendre, c'est quel le meilleur gardien de but de pool à prendre. Mais écoutez, pour commencer, on va vous parler de nos partenaires. On va changer l'ordre un peu ce soir. On va faire perfoelite.com en premier. Donc, perfoelite.com, c'est quoi? C'est un site qui est une équipe, en fait, qui remplit tous vos besoins d'entraînement, que ce soit sur la glace, hors la glace, personnel ou en équipe. Donc, si vous êtes l'entraîneur d'une équipe, que ce soit NHL, même si je pense pas qu'il y en a qui nous écoutent, ou bien une équipe Pee-wee, c'est une équipe qui peut travailler avec vous, toute d'expérience. Donc, perfoelite.com pour tous vos besoins d'entraînement.
Et comme à l'habitude, on a aussi, avec le code DLM30, vous avez un 30% de rabais pour le Elite Prospect Premium. Donc, comme à chaque semaine, je vous explique un peu c'est quoi le Premium. En gros, ça vous ajoute des informations. Elite Prospect, c'est le site en référence pour les statistiques et juste les informations en général sur les joueurs, les équipes, les ligues. Et avec le Premium, il y a plein d'ajouts qui se font. Comme on peut voir les game logs, j'ai oublié le terme en français là, mais donc à chaque fois les statistiques des joueurs de chaque match, et il y a plein d'autres ajouts qui viennent avec le premium, et 30% on s'entend que c'est pas rien. Donc sur ça, je pense qu'on peut commencer avec les petites nouvelles.
Ouais, ben écoute, aussi, vu que ça rentre autant bien dans le sujet d'aujourd'hui, là, si vous êtes fan de pool de hockey, nous on fait un 30 minutes où il y a à peu près 25 minutes qui vont être dédiées au pool, mais sur Elite Prospect, si vous avez le compte Premium, il y a un guide de, je me souviens plus combien de pages, de 300 pages, avec les 100 meilleurs attaquants, 100 meilleurs défenseurs. En tout cas, c'est vraiment très, très complet. Avant qu'on rentre dans les performances de la fin de semaine, Jules, je te laisserai. On a encore écouté une nouvelle un peu moins le fun avant de rentrer dans des nouvelles qui sont un peu plus excitantes sur cette fin de semaine-là.
Ouais, bon, donc c'est sûr que on continue avec des nouvelles un peu décevantes, je pourrais dire, là, en regardant des joueurs de la LHMQ, des anciens joueurs de la LHMQ, des anciens prospects québécois. Donc là, cette fois-ci, ben, c'est Gabriel Gagné, un ancien prospect des Sénateurs principalement, qui, bon, vient de se faire poursuivre là tout l'été par, je pense, tout l'été, il était dans des procès avec d'autres femmes qui l'accusaient d'agression sexuelle. Et en plus, là, son ex-conjointe ou son ex-copine aussi qui a témoigné de quand même d'actions quand même très graves, là, de manipulation et autres. Là. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on pourrait partir longtemps, là, mais bon, donc c'est ça. Un autre cas qui ne rend pas, la LHMQ et le hockey en ce moment vraiment un fier service.
Non, et écoutez, on voulait juste dire aussi en tant que pour toute l'équipe de Dans le Mille, donc c'est-à-dire moi puis Jules, mais on est de tout cœur avec les gens qui ont été victimes de cet homme-là. Là. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de problèmes, puis j'imagine même pas ce que son ex-conjointe a dû subir, donc on la croit et on pense aux gens qui ont été oui. Victimes. Maintenant, rentrons dans les nouvelles un peu plus le fun. Tout d'abord, ce matin, on a eu la nouvelle de la LHGMQ, Vincelli et leur joueur de la semaine. Donc, le meilleur joueur, dans le fond, des deux matchs qui ont été joués en fin de semaine. Vincelli, nous, c'est drôle parce qu'on a quand même une relation particulière. Ben, écoutez, pas personnel avec, mais on l'a regardé jouer depuis qu'il était en QM18, notre première année où on allait en QM18 souvent. Vincelli était encore dans l'équipe de Montréal, donc on l'a pas mal vu évoluer. C'est un gars qui est très, très robuste, mais qui a eu un développement un peu plus retardé, si je peux dire ça comme ça. Ça a pris un petit peu plus de temps avant qu'il éclore. On a vu des flashs la saison dernière, mais là, cette année, on voit vraiment le joueur que ça pourrait être. Puis écoutez, il va s'en venir à 20 ans à l'été prochain, donc trop tard pour le repêchage, à moins d'une saison extraordinaire où quelqu'un veut aller prendre un joueur de 20 ans, là, parce qu'on aurait le droit, là, techniquement, d'aller prendre un joueur de 20 ans, mais à surveiller pour les camps d'entraînement. Puis écouter un joueur avec du drive comme ça, qui se bat pour être devant le but, puis qui vient d'un système québécois, je serais vraiment pas contre le voir dans une de nos équipes québécoises. Mais là, écoutez, c'est vendre le. Je me souviens plus c'est quoi l'expression, mais c'est beaucoup trop tôt pour dire ça, mais à surveiller pour les overagers l'année prochaine et les invités du camp.
Ouais, ben, un autre joueur aussi qui commence bien la saison, puis c'est pas tant étonnant, là, mais c'est Antonin Véro, c'est deux petits gars. Tu sais, quand je dis petits gars, c'est ça, c'est 5 pieds 8, 5 pieds 7. Donc, on le sait là que malheureusement, ces joueurs-là, ils ont juste moins de chances en entrant dans la ligue. Donc, pour qu'ils soient repêchés ou qu'ils aient vraiment de l'attention, on fait juste regarder un Justin Poirier qui a dû faire une saison incroyable à son année de repêchage pour se faire repêcher en cinquième ronde.
Cinquième ronde, ouais.
Donc, c'est vraiment à chaque fois, c'est ça, comment dire, c'est pas surprenant parce que quand on regarde dans les matchs qui comptent, dans les séries, les équipes de la Ligue nationale veulent des gros joueurs. Mais bon, après, c'est juste de voir est-ce que ces gars-là sont capables de trouver une manière aussi de s'adapter puis de jouer contre des plus gros corps. Et moi, le match que j'ai regardé de Shawinigan, Vince Ali est vraiment, il est installé et tu vois qu'il est là, il est vraiment là, au top de sa forme.
C'est le centre du jeu, puis vraiment dans un système qui le fit bien. Là, je l'avais regardé aussi beaucoup, vu qu'on le connaissait après son échange l'année dernière, puis déjà là, pas au même niveau que cette fin de semaine, là, mais ça cliquait déjà très, très bien. Écoutez, maintenant, on a parlé de joueurs qui sont petits, pour qui c'est plus difficile. Maintenant, on veut mettre le focus sur un autre joueur qui a eu une excellente fin de semaine, puis lui, c'est vraiment intéressant, pas juste à cause de sa fin de semaine excellente, c'est parce que c'est un des top prospects au repêchage LNH qui sort de la LHMQ, c'est Justin Carbonneau, donc un grand ailier. Sur les sites internet, j'ai vu entre 6 pieds 1 et 6 pieds 3, donc ça doit être à peu près quelque part au milieu. Quand on l'a vu en personne, nous en tout cas, il était plus grand que nous deux, puis nous on est dans les alentours de 6 pieds, fait que c'est un grand bonhomme qui a commencé sa saison super bien. Avant de rentrer comme plus en détail sur son jeu, je vais attendre de le voir un peu plus, mais il a l'air de s'être amélioré sur beaucoup des points que je lui reprochais. L'année dernière, je trouve qu'il joue moins petit que l'année dernière. Puis lui, ça va être intéressant de le regarder plus. Puis bientôt, sur la chaîne Dans le Mille, aussi, vous devriez retrouver une analyse de début de saison de moi ou de Jules. Donc, à tenir ça à l'affût, mais sa première fin de semaine, il nous pousse dans la bonne direction. C'est quelqu'un qui s'améliore très rapidement, Justin Carbonneau. À regarder pour, s'il continue comme ça, le top 10, top 15, puis peut-être plus. Au repêchage, là, parce qu'un grand ailier comme ça, c'est précieux, là. C'est le power forward moderne.
Ouais, ben, Carbonneau, on l'avait vu l'année passée et lui, ça fait un petit bout qu'il est dans la LHMQ parce que justement, c'est un late. Donc, comment on pourrait dire, c'est un avantage dans le sens que le repêchage à la LHMQ et la LNH n'a pas les mêmes standards de date de naissance. Donc, Carbonneau a été repêché en même temps que Justin Poirier, mettons, mais il est juste éligible cette année au repêchage de la Ligue nationale puisqu'il est né en novembre. Donc, il va falloir quand même prendre ça en compte là, dans le fait que c'est plus une saison de 18 ans qu'il fait cette année que sa saison de 17 ans, contrairement à la majorité des joueurs éligibles. Mais Carbonneau, vraiment, c'est ça. Tu l'as dit, moi, je pense qu'en le regardant, il y a plus l'air d'un 6 pieds 1. 6 pieds 3, je pense que c'est plus comme un Zonin en termes de grosseur. Là. Mais bon, c'est un peu de détail dans ce sens que il est mature physiquement. Il a l'air vraiment de bien utiliser sa force. Mais moi, le principal atout que j'aime, et je trouve que c'est qu'il active le jeu. Dès qu'il a la rondelle, il va foncer vers les défenseurs, il va foncer au filet, il est toujours dangereux dès qu'il touche la rondelle. Puis ça pourrait peut-être être aussi un petit point que des fois, je trouve que... peut-être que ça va être à s'améliorer, mais en même temps, des fois, c'est dans le style de jeu de l'équipe. Mais justement, quand il n'y a pas la rondelle, des fois, il a peut-être l'air un peu plus nonchalant, surtout, mettons, en zone défensive. Mais bon, on s'entend qu'on est juste à deux matchs dans la saison. Donc, il est à 5 points en deux matchs. Là.
C'est pour ça que je voulais attendre si ça servirait à rien de faire, admettons, des analyses de début de saison tout de suite cette semaine. On va attendre un peu, mais tu sais, c'est ça. Pour le moment, ça serait ça les problèmes, moi, que j'ai vus dans ces deux matchs, un petit peu. C'est pas nécessairement pas l'air intéressé, mais suit un peu trop la rondelle quand il l'a pas. Mais le talent de Justin Carbonneau, quand il a la rondelle, c'est indéniable. Maintenant.
Et si je peux juste rajouter, là, moi, je ne le savais pas, mais quand j'ai regardé des listes, des listes très, très tôt, là, mais il est dans le, il est 41e, 14, 17e ou 26e. Là. Donc, moi, je pense que cette année, on pourrait vraiment être surpris avec beaucoup de joueurs de la LHMQ. Ça a fait défaut dans les dernières années, mais là, on a des Guité, des Desnoyers, des Zonen, comme j'ai dit, et un Carbonneau. Là, ça pourrait vraiment, vraiment surprendre. Puis après, il y en a plein qu'on oublie, là, des Matteo Nobert et autres.
Et ça va continuer, là, tu sais, quand on regarde les années qui arrivent. Là. Cette année, mais en tout cas, cette année, c'est sûr que c'est spécial, puis ça va être un plaisir pour nous de couvrir ça toute l'année. Fait que sur la chaîne, dans le mille, le regarder pour des analyses, il va en avoir plein de Carbonneau, mais de presque tous les joueurs éligibles à la LHMQ. Sinon, le dernier joueur qui a eu une excellente performance en fin de semaine, encore un joueur qui est magicien avec la rondelle, Demidov, qui a mis 4 points pendant son match. Pendant tout le début de la saison, même les matchs où il jouait un petit peu moins de minutes, il a montré tout son talent. C'est juste qu'il y a des matchs où tu sais, ça débloquait pas. Le gardien fait un bel arrêt sur un tir, mais là, cette fin de semaine, ça a plus que débloqué. 4 points, puis il les a mérités, ces 4 points, là.
Ouais, puis un peu, c'est un mystère parce que dans le sens, son premier match du week-end ou de la fin de la semaine, il fait 4 points. Il est comme dans les trois attaquants à jouer le plus. Et le match d'après, son coach il ne le fait pas jouer et Demidov est le joueur le moins utilisé de l'équipe. Donc c'est vraiment, tu sais, c'est un peu un mystère là, dans le sens que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Roman Rottenberg, mais à chaque fois que Demidov joue un peu plus, il y a des résultats qui suivent. Donc, est-ce que, y a quelque chose à l'intérieur qu'on ne sait pas, mais peut-être, mais dans le sens que l'état-major du Canadien avait l'air de quand même dire qu'ils avaient fait leur recherche à s'assurer que ce n'était pas justement une personne avec des problèmes à l'extérieur. Il n'a pas l'air de tout ça, là, donc, bon, regardez, c'est encore une fois, comme on l'avait dit, je pense, la semaine passée ou il y a 2 semaines, que dans la KHL, ils ne sont pas là pour développer nos joueurs. Il faut bien se rappeler de tout ça, là. C'est pas, t'sais, c'est une ligue professionnelle qui est quand même très, très, très en demande en Russie. Et donc, les jeunes espoirs, c'est pas tout le temps le centre de l'attention comme ça peut l'être dans d'autres ligues européennes. Mais bon, donc Demidov, ça va très bien, là. Je pense qu'il est à 6 points en 8 matchs. On s'entend que c'est vraiment une production impeccable. Ensuite, c'est ça, j'ai hâte de voir si il est capable d'avoir un peu plus de temps de jeu parce qu'on s'entend que c'est ça, c'est dès qu'il y a du temps sur le power play, ça fonctionne. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite, mais un très bon début de saison pour notre espoir.
Bon, maintenant, parlons pool de hockey. Écoute, avant qu'on l'a divisé en plusieurs catégories, donc on va les amener un par un, puis chacun dire les joueurs que ces catégories-là nous ont inspirés pour votre pool. Donc après, c'est sûr qu'il y a des catégories comme rookie qui s'appliquent plus à un pool keeper où tu gardes tes joueurs après chaque saison et des catégories comme, admettons, on parle une fois de breakout, ça va plus être, tu sais, dans une ligue où vous êtes 15. Alors là, peut-être que tu vas pouvoir aller trouver des steals là-dedans, alors que dans une ligue où vous êtes 5, peut-être que ça va être moins pertinent. Mais bon, avant de commencer à parler des joueurs, on trouvait ça important de souligner quand même quelques stats à ne pas négliger, à part si votre pool est 100% juste sur les points, là. C'est vraiment aux gens de le customiser, mais d'habitude dans les ligues, des stats à regarder quand vous faites votre scouting de pré-pool, si vous le faites, là, à moins d'y aller juste au feeling, ça dépend. C'est vraiment les tirs sur le but, shot on goal, les plaquages, les hits, les tirs bloqués. Et le nombre de mises en jeu gagnées. C'est facile d'avoir un petit avantage sur les autres membres de votre pool quand vous regardez plus spécialement ces stats-là. Puis, Jules, je sais pas si il y en avait une que tu voulais ajouter, mais sinon, je te lancerai dans les meilleurs rookies à prendre pour des pools cette saison.
Ouais, ben non, je pense que t'as pas mal tout résumé. C'est sûr que c'est ça. Il y a différents types de pools, puis il y a différents c'est ça, catégories qui peuvent être modifiées, là. Donc après, il y en a d'autres, là, des points en infériorité numérique et autres. Mais nous, on va rester plus dans celle que nous, d'habitude, on choisit et qui est le plus, selon nous, qui était le plus facile d'aller, ben, facile d'aller chercher des joueurs avec ces compétences-là et pas juste un shot in the dark. Donc, pour les recrues, mettons, nous, un exemple qu'on a fait, comme on n'était pas énormément dans notre pool, c'est qu'on s'est forcé à chacun de prendre au moins une recrue, ce qui vient ajouter un peu plus de piquant parce que justement, il faut que tu trouves une recrue qui va soit aller t'ajouter des stats dans les points ou dans les autres statistiques. Puis moi, je vais commencer avec juste un qui a joué l'année passée en série quand même assez profondément et qui, on l'a parlé tantôt, des petits gars, des gars qui sont pas très grands. Mais Logan Stankoven, sincèrement, c'est juste un vol complètement. Le repêchage 2021 est un très bon repêchage pour le Canadien de Montréal, mais pour Dallas, c'en est un très bon aussi avec Wyatt Johnston et Logan Stankoven. Mais Stankoven, moi, je pense qu'il pourrait racler les points cette année en jouant justement avec un Wyatt Johnston ou avec des vétérans. Dallas a une équipe très complète. Donc, ça va être intéressant. Je sais pas si tu veux que j'en enchaîne un autre ou tu voulais ajouter quelque chose sur Stankoven?
Ben non, c'est ça, Stankoven, je pense que quand on parle de un des paris les plus safe qu'on peut faire sur un rookie, c'est que tu vas pas vraiment aller chercher un rookie pour aller son jeu offensif, admettons, ses plaquages. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais d'habitude, c'est ça, la partie qui est un peu plus difficile. Stankoven, lui, ce qu'il amène, c'est des points. Donc, si vous cherchez un rookie qui va aller vous amener des buts et des points, Stankoven, c'est un de vos gars, en tout cas.
Par la suite, un autre qui peut aller vous chercher beaucoup de points. Puis pourquoi moi je le mets là? Oui, d'un, c'est un espoir avec énormément d'attentes. Mais c'est aussi qu'il va sûrement avoir toutes les opportunités de thrive, de réussir. Puis c'est Matvei Michkov parce que les Flyers, je pense qu'il manque définitivement de high-end. Talent de haute qualité là. Et Michkov, ça peut vraiment être ce joueur-là. Puis on l'a juste vu dans son premier match pré-saison, qui a vraiment, vraiment des habiletés offensives, là, c'est vraiment, vraiment développé. Le seul petit point que je pourrais dire sur Michkov, là, puis ça, c'est peut-être justement circonstanciel, mais son coach, c'est John Tortorella. Et on le sait que John, il a des techniques qui peuvent être quand même assez anciennes, mais qui peuvent être quand même aussi très demandantes pour ses joueurs, de demander d'être complet et tout. Et donc, Michkov, un joueur qu'on sait qu'il y a des petits problèmes des fois à revenir en défensive et autres, ça se pourrait que Michkov soit mis sur la touche plusieurs matchs cette saison là, pour justement ne pas suivre le plan de match. Mais si ça n'arrive pas, là, Michkov pourrait faire énormément de points.
Ouais, puis écoutez, après ça, là, je vais enchaîner avec deux qui sont quand même, vous allez regarder n'importe quelle liste, n'importe quel article pour le Calder, ils vont être mentionnés. Tout d'abord, Maverick Bourque, un Québécois. Maverick Bourque n'a pas encore beaucoup d'expérience. En fait, je pense, je me souviens même plus s'il a joué un match à l'NH, je pense pas, hein?
Ouais,
Oui,
il y en a
oui.
joué, mais.
Mais bref, vraiment une courte durée. Pourquoi est-ce que les gens disent que ça pourrait être un candidat... Surprise ou pas, là, dépendant de votre opinion pour le Calder, c'est parce que c'est un gars qui en HL a performé en termes de points énormément. Il est dans le système des Stars, ça fait joueur après joueur que les Stars montent et que ça clique tout de suite. Et puis Maverick Bourque, c'est un joueur qui, certes, son jeu n'est pas physique, mais il n'a pas peur du physique. Ça n'a pas été un défi pour lui en arrivant en HL, le physique. Puis je pense pas qu'en LNH, le physique, ça va être un défi pour lui. Donc ça pourrait. Puis Maverick Bourque aussi lui ont donné le temps là, vraiment de se développer puis d'atteindre une maturité où il est prêt maintenant pour la LNH. C'est vraiment son step naturel. Puis je pense qu'il va avoir une première saison productive. Sinon, l'autre, le plus
Ah
facile.
ben, juste deux
Oui,
secondes, là,
vas-y.
ça a été le MVP de la Ligue
Ouais.
américaine l'année passée.
Ben, c'est
Donc,
ça. Sinon, l'autre, parlons maintenant le choix numéro un au repêchage cette saison, le choix facile, McLean Celebrini. Je pense que si vous voulez quand même un safe bet pour un rookie qui va avoir du temps de jeu, qui va se faire donner sa place, puis qui va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, un peu comme Bédard de l'année dernière, ça va être Celebrini à Chicago, excusez-moi, pas à Chicago, à San Jose. Il est déjà projeté d'être sur la première ligne. Sinon, moi, il m'en reste deux autres. T'en avais-tu d'autres à mettre avant, toi?
ben moi, Celebrini, pourquoi je le trouve super intéressant aussi, c'est qu'il va sûrement gagner beaucoup de mises en jeu puisqu'il va être probablement le premier centre.
Il va en prendre
Donc,
beaucoup, ouais.
ça, c'est quand même une catégorie qui peut être dans votre pool. Nous, il l'est. Donc, Celebrini, c'est toujours intéressant de penser à ça, qu'il va faire beaucoup de mises en jeu. Et quand tu fais beaucoup de mises en jeu, ben, à un moment donné, tu en gagnes beaucoup. Donc, moi, c'est pour ça que je le trouve intéressant. Sinon, moi, je m'en vais dans les défenseurs, là.
OK.
Ben,
Ben,
le
vas-y
premier.
fort.
Ouais, OK, ben je vais y aller très fort parce que je pense que bon, c'était juste un match préparatoire hier, mais depuis qu'on l'a repêché, le Canadien a repêché Lane Hudson, ce gars-là fait juste aller à l'encontre des attentes, dans le sens que les gens sont toujours en train de douter. Et c'est normal regardant sa stature, son poids, mais vraiment, on voit à quel point il est capable de juste se synchroniser avec les meilleurs joueurs. Hier, c'était Dak et Laine, vraiment, que c'était juste. Fantastique dans la zone offensive et aussi il répare ses erreurs. Moi, je pense que Hudson va monter très rapidement dans l'échelon des défenseurs. Il va venir prendre beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Hier, ça a été le défenseur le plus utilisé. Je veux dire, moi, sincèrement, le Canadien, justement, c'est une équipe qui n'a pas la profondeur incroyable pour justement pas de pouvoir laisser d'espace à Hudson. Et aussi, on n'est pas en mode gagner maintenant. Donc, on n'a pas besoin d'avoir des défenseurs qui ne font pas d'erreurs ou qui. Donc, Hudson aura vraiment la liberté de juste produire, d'amener de l'offensive. On n'a pas de défenseurs qui produisent de l'offensive comme lui. Donc, moi, je pense vraiment que Hudson a un cas pour gagner le Calder s'il si reste en santé et si il est sur les powerplays le premier, mettons, le plus rapidement possible. Mais même là, le deuxième powerplay aura quand même des très bons joueurs. Donc, moi, Hudson, je pense sincèrement que c'est pas rêvé de dire qu'il pourrait être un des top 3 du Calder.
Ouais, bon, parfait. Hudson, c'est sûr que nous, pour le moment, dans notre, ça va peut-être être un bon pick-up de saison. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être réticentes de le prendre avant de l'avoir vu vraiment en LNH plus, mais ça va être peut-être
Ouais, c'est ça. Mais
un
c'est surtout
rookie
d'être
qui.
dans la LNH.
Ben, c'est ça. Ça pourrait être un des défenseurs le plus tu sais, sur Yahoo ou Fantasy. En tout cas, il donne les stats de combien de joueurs ont été placés dans une équipe là, et non repêchés. Ça pourrait être un des joueurs qui a ça le plus haut. Sinon. Moi j'en ai deux derniers qui sont un peu plus surprises, que peut-être je prendrais plus de prendre un peu plus de patience avec eux. Il y a Cotter Gauthier qui va jouer sa première saison. Je m'attends pas à une saison énorme en production, même si t'sais, on parle plus que dans les alentours de peut-être 30-35 points. Moi je dirais même s'il y a le potentiel d'en mettre plus vraiment. Mais lui, ça va vraiment être l'aspect physique qui va être intéressant. Ça va être un gars qui va arriver dans la LNH déjà avec un peu ce thème-là, là. Les gens le connaissent pour ça, donc il va vouloir prouver ça, un peu comme son coéquipier McTavish quand il était arrivé. Il fallait qu'il amène cette intensité-là déjà parce que c'est pour ça qu'il est allé, qu'ils l'ont pris. Puis sinon, un que ça serait vraiment, je voulais en mettre un peu plus surprenant, un peu plus surprise, qui pourrait causer une surprise. J'ai mis Josh Doughan avec Utah Hockey Club. Pourquoi? La saison passée en HL, il y a 44 points. Donc, c'est très correct. C'est quand même, tu sais, une bonne production pour une première saison en HL. Mais c'est vraiment quand il a été monté en LNH, ils lui ont donné des chances, vu que justement, Utah, c'est pas l'équipe la plus complète pour le moment. Puis, il a mis 9 points en 11 matchs. Donc, s'il arrive dans la LNH cette saison, puis qu'il produit à ce point-là, ça pourrait être une des surprises pour peut-être, tu sais, être dans la discussion du Calder, même si je pense pas que ça va être lui qui va le gagner. C'est un nom à garder en tête.
Complètement. Est-ce qu'on passe à la prochaine catégorie?
Ouais, ben écoutez, ça aussi, ça pourrait être une bonne question pour les gens qui écoutent. Comment est-ce que vous diriez breakout candidates en français? Donc,
Moi, je pense que c'est des joueurs en éclosion, là, où c'est des joueurs qui vont éclore, là.
ouais, ben je
Je pense que c'est ça le terme le plus proche en français.
Ben, moi, j'en mettrais un au début parce que je pense que c'est un peu triché de dire éclore, mais je trouvais que c'était la catégorie où il fitait le mieux. Moi, j'ai mis Connor Bedard dedans, pas parce que il a pas éclos la saison dernière, c'est juste qu'à cause de la blessure, puis un peu comme la première saison de McDavid, on les a vus comme bien produire, mais pas vraiment proche de leur potentiel. Puis McDavid, je pense que c'est à sa deuxième saison qu'il a mis son premier 100 points. Bedard, ça pourrait être dans les alentours de 90-100 points cette saison, ce qui serait quand même, à mon avis, une assez grosse amélioration pour la saison passée pour le justifier de au moins le mentionner dans dans cette section-là, même si techniquement c'est pas ça la définition d'éclore.
Ouais, puis ils sont allés chercher un peu plus de renforts pour Bedard, justement. Et il y a des Frank Nesar et d'autres, peut-être, prospects de Chicago qui vont surprendre cette année. Donc, moi, je suis quand même d'accord. Puis justement, moi, mon premier candidat en éclosion, qui peut justement paraître, encore une fois, un peu étrange parce qu'il y a eu une excellente saison l'année passée, mais moi, pour moi, c'est Wyatt Johnston parce que je pense que Johnston, on n'a même pas encore vu le plafond que ce gars-là peut apporter offensivement. Vraiment, c'est juste, on l'a vu en série, là, il est dominant. Je veux dire, c'est un vol, c'est littéralement un vol, c'est déjà le joueur avec le plus de points de la Ligue nationale, pas de la Ligue nationale, du draft, excuse-moi. Et donc, c'est ça. Pour moi, Wyatt Johnston, c'est vraiment un candidat qui a fait 65 points l'année passée. Moi, je pense qu'il peut aller au-delà d'un point par match et être justement le premier centre de Dallas là, de cette année. Donc, Pour moi, ça, c'est mon breakout candidate.
Ouais, moi j'avais aussi. Il y avait Byfield à Los Angeles. Oui, on a vu une très très grosse amélioration l'année dernière, mais je pense pas que Byfield a dit son dernier mot. Puis lui, c'est justement un candidat qui va être intéressant à voir au niveau de plaquage de jeu physique. Je pense que c'est vraiment là qu'on pourrait voir une amélioration. Oui, en points, certes, mais l'année dernière, les points ont déjà bien amélioré. Maintenant, je pense que ses autres stats connexes vont monter à la suite de ça. Puis j'avais aussi mis Dak à Montréal, risqué, mais
Ouais, risqué, ouais.
vu les deux samples qu'on a vus pendant les deux premiers matchs de la saison dernière, où on aurait pu dire que c'était un des meilleurs joueurs, si ce n'est pas le meilleur joueur de Montréal, sur la glace pour ces deux matchs-là, je pense que ça pourrait être un choix vraiment au risque, haute récompense, puis tu sais, éclair dans le sens où on pourrait finalement voir sa saison où son amélioration se conclut un peu, le voir l'œuvre projet final de Kirby Dack qui rentre dans le début de ses années de prime.
Ouais, puis ben moi je vais y aller avec un qui avait commencé la saison passée avec justement, puis c'est Juraj Slafkovský. Je pense que Slaf, quand on parle de juste des catégories du pool, en termes de tirs bloqués, en termes de frappe, ben de mise en échec, en termes de tir, je pense que Slaf va juste vraiment encore plus prendre d'aisance sur la patinoire et pourrait vraiment devenir un vol là, dans le sens que tu sais, on l'a déjà vu l'année passée dans la deuxième moitié de saison, juste commencer à être un joueur qui était dans un rythme de faire 70 points, puis je pense cette année il va commencer il va hit the ground running comme on dit là, donc il va commencer la saison comme il a terminé la saison passée. Tout le monde dit à quel point ils ont vu cela, et il a l'air d'être le joueur le plus entraîné, le plus. Tu sais, il y a du Sportsnet, ils sont allés en Slovaquie les rencontrer. Cernak et Slafkovský, ils disaient Slafkovský est complètement une brute. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Moi, on parle des fois tu sais, d'un peu le Jagr Junior, là, puis je pense que c'est ça, il pourrait nous prouver ça cette année, là, qu'il consolide cette place-là. Avec encore plus un Suzuki puis Caulfield qui continuent à leur progression. Donc moi, il y a Slaf. Un autre gros bonhomme, c'est Matthew Knies. Je pense que Matthew Knies, cette année, justement, c'est sa deuxième saison, vraie saison dans la Ligue nationale. Je pense que les Maple Leafs ne peuvent pas se permettre d'un Matthew Knies qui a on appelle ça un sophomore slump, là, donc une guingue de la deuxième année. Je pense que Knies sait très bien que il va jouer un très gros rôle dans la réussite ou comment dire, l'échec de son équipe, parce que justement, avec son salaire, avec son type de joueur, peut vraiment venir aider énormément Matthews, Marner et les autres compatriotes de trio, là. Mais moi, je pense que Nice pourrait vraiment nous étonner. Je veux dire, l'année passée, 35 points en 80 matchs. Moi, je pense qu'il peut vraiment monter ça.
Là, pour finir, écoute, cette catégorie-là, moi, j'en donnerai quelques noms, mais un peu plus rapidement.
Ouais,
Zellweger,
vas-y.
on l'a vu monter à Anaheim à la fin de la saison dernière, va avoir une plus grosse chance de produire. On a vu ce qui s'est passé avec Minty Yukov. Je pense pas que c'est le même calibre que Minty Yukov, Zellweger, mais c'est quand même un défenseur qui aurait le potentiel, un peu comme Lane Hutson, de beaucoup produire cette saison. McTavish, on l'a vu avoir une saison difficile la saison passée. Je m'attends à un retour en force de sa part. C'est pas le type de joueur qui va perdre confiance en lui. Dylan Gunter devrait jouer sa première saison complète en LNH. On l'a vu bien produire, même si Utah Hockey Club, qui était Arizona l'année dernière, ont été un peu plus réticents. Lui ont pas complètement donné un rôle. Il voulait qu'il passe un peu de temps en AHL. Ça a bien marché en AHL. Ça a bien marché en LNH. Cette saison, on va voir de quoi il
Ouais.
est fait pour vrai. Puis sinon, pour finir, trois noms, choisissez votre préféré là-dedans, c'est tous à Buffalo. Peterka, Quinn ou Benson, il y en a un là-dedans, ou deux si Buffalo sont chanceux, qui vont avoir une saison éclosion, je suis convaincu. Si on regarde les matchs de pré-saison, on dirait que c'est Peterka, mais bon, ça peut complètement changer au match d'ouverture, au début de la saison. C'est tous des joueurs avec énormément de talent. Quinn, Peterka et Benson, il y en a un qui va avoir une grosse saison en termes de points cette année. C'est juste de choisir qui est-ce que vous pensez le plus. Moi, j'ai dit à quel point j'aimais Benson, fait que mon argent serait là-dessus.
Ouais, puis moi, j'en ai rajouté un juste parce que j'ai vu que aujourd'hui, il avait été signé 2 ans à 3,25 millions et je l'aimais beaucoup à son année de repêchage et c'est Cole Perfetti. Je pense que Cole, un peu la voie libre sur le top 6, même sur la première ligne de Winnipeg. Donc, moi, Cole Perfetti, je pense que ça pourrait vraiment être un bon pick-up. Par la suite, donc, on y va plus dans des catégories qui sont rarement discutées, mais les mises en échec et les blocages. Moi, je vous conseillerais pour, si vous avez les tirs bloqués, là, vraiment, choisissez des défenseurs parce que c'est les
Ouais, c'est
défenseurs
sûr.
qui ont le plus d'opportunités de bloquer des tirs, puis on va juste commencer avec un, là, c'est David Savard.
Ouais, c'est ça. Puis ça, écoutez, c'est vraiment, il va avoir moins de descriptions que les autres sections parce que c'est vraiment statistiquement parlant dans les dernières saisons qui a réussi à amener des points là-dedans. Quand on parle de plaquage et tir bloqué, on ne peut pas parler de Jérémy Lauzon, qui a eu une saison en termes de plaquage, qui est le leader dans la ligue, mais aussi la saison avec le plus de plaquage dans la LNH. Donc, c'est juste une saison incroyable, incroyable en termes de jeu physique. Vous allez choisir, bien, vous allez être récompensé avec des points dans cette catégorie-là, même si ailleurs,
Pas
ça
dans
va
le
pas
reste.
être. Non, c'est ça. Un qui est un peu plus balancé, puis je pense qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on aime tellement ça, dire à quel point son contrat est mauvais, c'est Darnell Nurse. Darnell Nurse, c'est pas le meilleur défenseur de la ligue. De loin, est-ce qu'il est surpayé? Oui, mais dans la fantasy, tu gagnes pas de points parce que tu choisis un joueur qui a un bon contrat, sauf si dans votre fantasy, vous avez le cap salarial, en tout cas. Mais 172 tirs bloqués et 165 plaquages, c'est pas leader dans aucune de ces deux catégories-là ensemble, mais c'est un bon package de frappe et de tirs bloqués quand on mélange les deux. Donc, il va aller vous chercher des points dans ces deux catégories-là.
Ouais, puis moi, un dernier que je mettrais qui est complet quand même, c'est Matt Roy. Il fait plusieurs. Il va être dans le top de la ligue en termes de tir bloqué, puis il va être dans le top de la ligue en termes de plaquage.
Ouais, puis écoutez, en tir bloqué, le
C'est un
leader
joueur
l'année
très
dernière,
responsable.
c'est Parayko aussi. En tir bloqué, il faut lui donner.
Ouais.
Lui, c'est un peu le Jérémy Lauzon des tirs bloqués, même si quand on regarde la liste, admettons, en tir bloqué, l'écart entre le numéro 1 et le numéro 2 n'est pas autant haut que la liste des plaquages. Sinon, important aussi de dire Seider. Pourquoi? Parce qu'il bloque beaucoup de tirs et il vous amène une bonne production. Donc, encore une fois, un 2 en 1. Puis je pense que quand on parle de catégorie aussi de plaquage et tir bloqué. On doit mentionner Brady Tkachuk parce que Brady Tkachuk, c'est quand même un 3 en 1 dans le sens où il va aller frapper, il va aller bloquer des tirs et il va vous amener une production de points qui est très, très intéressante. Donc, ça serait un des premiers joueurs à avoir en tête dans votre draft de fantasy, à mon avis. C'est le deuxième attaquant dans toute la LNH la saison dernière avec le plus de plaquage. Donc, Brady Tkachuk, vraiment, dans les premiers choix à les faire, là, vous allez le voir sortir beaucoup cette saison à cause de ça, justement. Ces trois catégories où il y a un impact. En termes de tir bloqué, c'est pas un des leaders, mais il en fait quand même. T'sais, fait que ça fait trois catégories où il ajoute beaucoup.
Enchaîner.
Moi, ouais, c'est ça. Les pièges, écoute, je vais te donner moi mes deux premiers, puis après ça, on comparera un peu. En termes de pièges, numéro 1, John Tavares. John Tavares s'est fait enlever le captain. On le voit prendre un petit peu de vieux, même si ça reste un très bon joueur de hockey qui va vous amener des mises au jeu gagnées. On devrait le voir avoir un temps de jeu un peu réduit, surtout si on voit un petit peu plus de jeunes rentrer dans l'organisation. Donc, juste à tenir en tête, ça pourrait être un piège, pas juste se baser sur ces deux, trois dernières saisons. Sinon, Ullmark, on l'a vu être excellent avec Boston, mais Boston avait un système défensif excellent. Maintenant, il s'en va à Ottawa, qui sont connus pour. C'est un système très difficile pour les gardiens de but. Ullmark est un très bon gardien de but, mais ça va être plus difficile. Sinon, j'ai mis aussi Alex Ovechkin. On a vu la saison dernière, puis l'autre d'avant, ça a été un petit peu plus difficile pour lui. Puis c'est pas le type de joueur que je m'attends à un comeback. Quand on le prend, là, c'est juste qu'il faut être conscient que ses stats sont en régression. Donc, c'est pas nécessairement un piège, mais à tenir en compte quand même quand on fait ses choix.
Ouais, puis je vais y aller avec un autre un peu qui est justement à la fin de sa carrière, là. Puis moi, c'est Brad Marchand. Je pense que oui, Boston vont encore être une très bonne équipe dans la Ligue, juste à cause de leur culture. On peut pas aller à l'encontre d'eux autres, mais je pense qu'à un moment donné, Marchand, ça va ralentir. Et on le voit déjà, ça commence un peu à descendre, là. Et c'est ça, je pense que faut faire attention, faut peut-être pas s'attendre là, justement qu'un Brad Marchand à 36 ans ait les mêmes statistiques qu'avant. Mais ce qui est intéressant avec Marchand, c'est justement un peu l'éventail de statistiques qu'il peut venir remplir là, en termes de plaquage et autres. Mais tu sais, c'est ça. Je pense vraiment qu'on commence à avoir un peu une fin d'un Brad Marchand super efficace. Mais encore une fois, Boston n'ont pas de joueurs.
Ouais.
Ils n'ont pas comme six joueurs pour remplacer Marchand, là. Donc, il va toujours jouer sur le top 6 et dans le premier power play et peut-être le désavantage numérique. Puis sinon, ben, un qui est quand même assez répandu, là, mais c'est Ryan Hart. Est-ce qu'il va vraiment être capable de refaire une saison de 50 buts? C'est vraiment à se le demander, là. C'est un gros pari, en fait, que je dirais, là. C'est parce que il s'agit qu'il refasse le 50
Ouais.
buts et vous allez avoir un excellent joueur, mais les chances sont que ça c'était une année qui était un peu justement un fluke, là, un peu une année, ça va être sa meilleure
Ouais.
saison de
De
sa
carrière.
carrière. Donc,
Puis
c'est ça. Moi,
juste
je pense que
garder en
c'est mes
tête
deux.
aussi le niveau des équipes qui baissent. Moi, le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est Tampa Bay. On a vu Kucherov être un des leaders de la ligue en points. Vasilevskiy excellent. Gaudreau qui s'en vient, mais Stamkos s'envole. Le niveau de Tampa Bay est descendu un tout petit peu comparé à la saison dernière. Donc, ça pourrait avoir un impact sur les statistiques de leurs joueurs. Donc, à garder en tête quand on choisit un joueur de Tampa Bay. Sinon, Jules, je te laisserai y aller avec tes joueurs à ne pas sous-estimer.
Ben, moi, je vais te laisser y aller en premier.
OK, parfait. Ben,
Parce
écoute.
que moi, dans le sens que les joueurs à ne pas sous-estimer, c'est des joueurs que j'ai nommés avant, là, tu sais, justement
OK,
des
ouais.
Nice, des Perfetti, là.
Donc, moi, j'en ai quatre. Il y en a qui sont plus simples à expliquer que d'autres, là, parfaitement. Déjà, Verraghi. C'est un joueur qui, en tant que tel, tu sais, quand on le regarde lui tout seul, va pas être le leader partout, nulle part. Ça va pas être le meilleur en points, en buts, en assists, peu importe. Mais c'est un joueur qui se donne beaucoup, qui joue des top minutes avec un top 6 top. Donc souvent, il est sur la première ligue en Floride l'année dernière. Puis quand il est pas sur la première ligue, il est sur la deuxième ligne. Amène des pucks au net, il se bat. Dans le sens où, tu sais, il frappe, donc ça va pas être le leader en plaquage, ça va pas être le leader en tir bloqué, mais il va aller en chercher un petit peu par-ci par-là en ayant une très bonne production de points. Donc n'oubliez pas Verraghi quand vous faites votre pool. Sinon, j'ai mis Nico Hischier à New Jersey aussi. Nico Hischier, ça va pas être le plus grand producteur de points, mais en termes de tir au but, shot on goal, il est excellent. A beaucoup de buts sur le power play et c'est un gagnant de mise au jeu. Donc, quand on prend en compte, c'est quelqu'un qui va vous faire gagner la catégorie shot on goal et mise en jeu. Deux catégories que souvent les autres peuvent sous-estimer. Donc tu vas prendre Nico Hischier, ils vont te battre dans peut-être la catégorie des buts, mais tu vas les gagner, tu vas les battre dans la catégorie assist, mise en jeu et tir au but. Sinon, j'ai mis aussi Barzal. Je pense que Barzal, on l'a un peu oublié parce que les saisons dernières, ça marchait vraiment pas avec le système des Islanders. On lui a demandé de jouer un rôle un peu plus défensif, ce qu'il est capable de faire, mais qui n'est pas vraiment sa force. On pourrait voir un peu plus de points si Patrick Roy décide de l'utiliser dans un rôle un tout petit peu plus offensif, jouer avec un système un petit peu plus axé sur l'offense chez les Islanders, ce qui ne serait pas une mauvaise chose parce que les dernières saisons, ça ne marchait pas. Puis sinon, j'ai mis Morrissey de Winnipeg. Un jeu physique qui est quand même très respectable. Encore une fois, on ne parle pas d'un doute qui va être le numéro 2 dans les hits. Ce n'est pas celui-là après Jérémy Lauzon, mais il frappe, il bloque des tirs. Et sa production de points est excellente. Donc, encore une fois, on parle de trois catégories clés où ce gars-là peut aller vous faire gagner des points. Donc, à ne pas le sous-estimer, Josh Morrissey.
Dans les gardiens qui pourraient surprendre, moi j'ai deux recrues, donc j'ai Dustin Wolf et Yaroslav Askarov, mais j'ai aussi un gardien qui est déjà quand même au top, là, mais c'est Ilya Sorokin, parce que je pense que Sorokin, l'année passée, ça a été quand même une année un peu décevante, et je pense qu'il pourrait vraiment revenir avec. T'sais, une année complète de Patrick Roy. Et Sorokin, selon moi, c'est un peu la raison de si les Islanders font les séries ou non. T'sais, on s'entend l'année passée, justement, 3,01 buts en moyenne encaissés et un pourcentage d'arrêt de 9,09. Donc, c'est pire que Caden Primo, là, alors qu'avant, il était habitué à des 9,18, 9,25, 9,24. Et des moyennes de buts accordées entre 2,3 et 2,4. Donc, on s'entend que l'année passée, c'était vraiment pas son année. Mais je crois vraiment qu'avec justement une année complète de Patrick Roy, ça pourrait être un gardien à ne vraiment pas sous-estimer.
C'est ça, écoute, il y a les jeunes que tu as dit, Wolf, Askarov, il y a Wallstedt, Levi qui vont sûrement jouer en HL pour commencer la saison, mais juste à les garder en tête, si jamais un de vos gardiens se blesse, potentiellement que ce gardien-là, Levi Wallstedt, va être monté en LNH, puis c'est des gars que s'ils sont montés puis ils performent bien, ils pourraient prendre un gros rôle d'ici la fin de la saison. Donc, juste des noms à garder en tête, même si c'est pas pour votre repêchage début de saison. Sinon, moi, mon gros nom, c'est Kochetkov à la Caroline. Il y a encore Anderson, donc il va encore avoir une bataille pour le numéro 1, mais si Kochetkov performe bien, il pourrait vraiment être le gardien que la Caroline porte pour plus de matchs, même si son nombre de matchs va être limité, juste dû au fait de la présence de Frédéric Anderson, qui est encore un excellent gardien pour la Caroline. Écoutez, juste avant de partir, qu'on finisse ça, je voulais juste vous donner trois catégories. Attention, là, donc juste trois trucs à garder en tête que peut-être que vous avez raté au courant de l'été ou bien que c'est arrivé la saison dernière, donc vous en souvenez plus. C'est sûr qu'il y en a plus, mais c'est les trois plus gros, je pense, en rentrant dans cette saison de poule. Numéro un, Thatcher Demko a eu des problèmes de genoux, a pas pu avoir sa chirurgie parce que ça règle rien. Donc, il va falloir qu'il apprenne à jouer cette saison avec une blessure au genou. Ça peut être très déstabilisant pour un gardien de but. Donc, on pourrait voir Thatcher Demko qu'on voit d'habitude ou bien on pourrait voir Thatcher Demko avoir une régression à voir au courant de la saison, mais c'est à garder en tête pour le repêchage. Evander Kane a eu une chirurgie durant l'été, ne jouera pas jusqu'à janvier. Donc, gardez-le en tête, n'allez pas prendre Evander Kane dans le repêchage début de saison. Il est blessé jusqu'à janvier. Et puis ça, c'est celui que vous pourriez avoir oublié. Moi, personnellement, quand j'ai vu Valérie Nichushkin out, je me souvenais plus pourquoi. Est-ce qu'il est blessé? Finalement, il est suspendu. Lui, il s'est fait suspendre jusqu'à la mi-novembre. Puis même là, à la mi-novembre, il va falloir qu'il passe à travers le processus de réinstitution. Je me souviens plus comment il l'appelle, mais de la LNH. Il va falloir qu'il demande à la LNH s'il peut réavoir le droit de jouer. Donc, en mi-novembre, c'est rien de garanti non plus. Il y a des conditions à la fin de sa suspension. Donc, encore une fois, Valérie Nichushkin, s'il redevient disponible, potentiellement que vous pourriez sauter dessus dans les agents libres de votre ligue, mais n'allez pas le prendre au repêchage de début de saison. Si ça se trouve, lui aussi, il va être out jusqu'à janvier. On ne le sait pas quand est-ce qu'il revient, même si c'est normalement en mi-novembre.
Ouais, puis moi, j'en ai mis un justement. Tu as parlé de Demko qui a un peu des blessures à répétition. Puis Kirby Dack, je pense que c'est un peu là, cette année, là, s'il se reblesse pour de longues durées, là, je pense qu'on va commencer à devoir faire un peu un X sur son potentiel complet, là, qu'il atteigne complètement. Donc, c'est ça, un Dak, un Patrick Laine aussi. Si on fait juste regarder le Canadien, là, mais ça, c'est des gars que justement. Ils ont manqué beaucoup, beaucoup d'hockey et ça pourrait vraiment faire mal s'il arrivait quelque chose cette saison.
Au risque, haute récompense avec ces deux
Exact.
gars-là. Écoutez, merci d'avoir été là avec nous. Bonne saison des poules, bon repêchage avec vos amis, les étrangers en ligne. Je ne sais pas avec qui vous le faites, mais bon repêchage. Et puis, restez à l'affût sur la chaîne Dans le Mille pour, comme je disais tantôt, les analyses vont commencer bientôt. On ne donne pas encore de date, mais ça devrait suivre dans les semaines qui s'en viennent, là. Il devrait en avoir qui sont postées.
Complètement. On se voit la semaine prochaine.
Bonne soirée.